À Rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès d'un grand auteur spirituel dont le nom est moins connu malheureusement. Son livre, L'abandon à la divine providence, est très connu, c'est une plaquette plutôt. Et son nom, c'est le père Jean-Pierre de Caussade, un jésuite qui est mort il y a 250 ans, en 1750, 51 même. Et donc un jésuite. Et c'est aussi la fête de l'Immaculée Conception, faut quand même pas oublier. Or, Jean-Pierre de Caussade, dans son petite plaquette, L'abandon à la divine providence, commence en parlant justement de la Sainte Vierge. Mais auparavant, je voudrais vous lire juste les premières lignes de la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, qui est de la fête d'aujourd'hui. Ça considère ma rapport avec les saints. Hein? Saint Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, en Jésus-Christ, il nous a choisis avant la création du monde. Oui, il nous a choisis, nous, qui sommes de petits vermisseaux de rien du tout. Il nous a choisis pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. » Que c'est beau. Dieu, que c'est beau. Alors, je reviens à Jean-Pierre de Caussade. De Caussade. C-A-U-2-S-A-D-E. Cet homme, ce prêtre, ce jésuite, est né le 5 mars 1675 dans le Quercy, c'est donc, disons, dans le sud-ouest de la France, et disons au nord de Lourdes, pour ceux qui sont allés à Lourdes ou qui savent où est Lourdes. Et il entre dans la compagnie de Jésus, chez les jésuites, donc le 16 avril 1693 à Toulouse. Il a 18 ans. Il est décidé à 18 ans, puis il va devenir un des grands auteurs spirituels de cet ordre, les jésuites. Il fait sa profession beaucoup plus tard. C'est long, les jésuites, pour faire leur profession. Ils ont le temps d'y penser. Il l'a fait le 15 août, en la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge, à 33 ans, en 1708. Là, il est, pendant 6 ans, professeur à Aurillac et à Toulouse, donc dans le sud de la France. Et il a une vie itinérante de prédicateur qui commence en 1715. Hein. Il est très bon prédicateur, il est recherché, c'est un bon directeur spirituel. Il commence ça à 40 ans. On le retrouve à un moment donné, 9 ans plus tard, après avoir pérégriné un peu partout, puis avoir été apprécié un peu partout. Il est au Puy, dans le centre de la France à peu près, en 1724, puis à Beauvais, plutôt vers le nord, où était le chanoine Caffarel, dont j'aurai l'occasion de vous présenter une entrevue sur bande magnétoscopique dimanche prochain au Centre Unitas à 2h30. Magnifique, sur la prière. Donc, il est à Beauvais en 1725, puis là, de 1729 à 1731. C'est intéressant parce qu'il fait un premier séjour en Lorraine, ça le met en contact avec les visitandines. Vous savez, ces sœurs, ces religieuses cloîtrées, on en a ici, qui ont été fondées par sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal, des noms très longs, et Saint-François de Sales, en fait. Et puis, donc, c'est à Nancy qu'il va les voir. Et elles nous ont conservé, c'est très intéressant, sa correspondance. Puis le meilleur de sa pensée, c'est comme ça qu'on sait ce qu'il enseignait. Mais son nom figure quand même parmi les directeurs, si on peut dire, du séminaire d'Albi en 1731, donc à 56 ans. Mais dès 1733, on le rappelle, en Lorraine, où il prend la direction là, de la maison de retraite de Nancy, dont je viens de vous parler, fondée en 1726. Puis il y a des troubles politiques. Ça, je vous raconte ça en résumé, sa vie, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, les troubles politiques là, entravent le développement de ces retraites, mais les visitandines bénéficient quand même des loisirs forcés du père de Caussade. Elles sont bien contentes, hein, parce que le père de Caussade leur fait de fréquents entretiens, puis il suit de près quelques-unes des religieuses qui s'adressent à lui pour leur direction spirituelle. Et là, son influence coïncide avec le supérieur d'une femme exceptionnelle, c'est Mère Louise Françoise de Rosen, R-O-S-E-N, une femme intelligente, cultivée, l'une d'une vie hautement mystique. On a écrit des livres à son sujet, d'ailleurs. Alors, il y a souvent dans l'Église, comme ça, une religieuse et un religieux qui s'apprécient et qui évoluent dans la vie mystique et dans l'amour du Christ de façon exceptionnelle, comme tout à l'heure je vous ai mentionné Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Les lettres du père de Caussade nous laissent soupçonner d'ailleurs qu'il y avait au sein de cette communauté des divergences de spiritualité. La mère de Rotembourg, qui a été élue supérieure, une autre sœur, ça, en 1638, elle groupe en ce qu'elle appelle une sainte ligue les dirigés du père de Caussade, qui désirent devenir des saintes, quoi, et qui toutes se sentent un attrait spécial pour la vie intérieure. Alors, on reproche, toujours des gens qui sont là prêts à reprocher, on reproche à leur directeur de trop pousser à la passivité, c'est-à-dire de s'abandonner, puisque c'est son livre, son petit livre, là, l'abandon à la divine providence, de s'abandonner de façon passive. Et c'est un des motifs pour lesquels il a étudié, lui, avec soin, outre la pensée de Saint François de Sales, dont je vous ai longuement parlé déjà deux fois, puis la doctrine de Fénelon, puis de Bossuet, qui était en dispute, dit-on, à l'époque. Puis, il rédige des notes en forme de dialogue. J'ai le livre ici sur la querelle semi-quiétiste. Puis un jésuite de son supérieur, au fond, un homme qui l'apprécie beaucoup, le père Gabriel Antoine, qui a eu connaissance de tous ses écrits en forme de dialogue. Puis, il s'entremet, lui, auprès du provincial de Champagne, la province de France, pour obtenir le permis d'imprimer en 1638. Là, le père de Caussade, lui, est pas très empressé à publier son manuscrit. C'est un homme humble. Je pense que c'est pas tout à fait à point, mais finalement, il quitte Nancy en 1739, puis l'année suivante, il est nommé recteur du collège de Perpignan, ce qu'il n'aime pas du tout diriger des collèges. Il aime pas ça. Mais il accepte. Puis en cette ville, l'année suivante, sont imprimées par Jean-Baptiste Régnier les fameuses instructions spirituelles. Alors, le livre que j'ai été imprimé chez Desclés de Brouwer, il y a une vingtaine d'années, même pas, en 1981, c'est un traité sur l'oraison du cœur et puis des instructions spirituelles. Il y a de très, très belles choses. Je vous en lis un petit passage comme ça. Comment, c'est sous forme de dialogue, je vous ai dit, là, il y a une question. Comment faut-il s'humilier de ses fautes devant Dieu? C'est la page 238. Alors, le père de Caussade répond à cette question. Cette humiliation intérieure doit être exempte de tout chagrin, de tout dépit contre soi-même. Car, outre que ces mouvements déréglés ne remédient à rien, ils sont eux-mêmes de nouvelles fautes, souvent plus dangereuses que les premières. Pourquoi? Parce qu'elles viennent d'un amour-propre, un amour-propre piqué et d'un orgueil révolté de se voir encore si imparfait. Laissez donc, reprend Saint François de Sales, il aime bien citer Saint François de Sales, laissez toutes ces humilités chagrines, inquiète et dépiteuse, par conséquent orgueilleuse, et apprenez à vous supporter patiemment vous-même, comme vous devez supporter le prochain. Et par la même charité, bien là, pratiquez la douceur envers vous-même, ainsi qu'envers les autres, en vous reprenant sans colère, ni aigreur, ni dépit. Comme il y a donc raison, c'est plein de bon sens. Alors, l'existence relativement mouvementée du père de Caussade contraste avec ses aspirations profondes. Ses lettres, qui sont datées, disons, de 1640 à 42, nous le montrent résigné de façon absolument admirable à des fonctions supérieures qu'il n'aime pas. Il y a même de la répugnance, supérieure de collège, là. Il accepte de même, avec beaucoup de patience, de perdre la vue. Il est menacé de perdre la vue, puis il accepte. Et après être passé par Albi, dans le sud de la France, en qualité de supérieur, il meurt au séminaire de Toulouse, en 1751, le 8 décembre, à 76 ans. En dehors de sa direction spirituelle, l'activité du père de Caussade a laissé peu de traces, et ses contemporains, bon, sauf les visitants dignes de Nancy, là, ne nous ont à peu près rien transmis. Mais les œuvres du père de Caussade ont chacune leur histoire, hein. La première partie, là, les instructions spirituelles dont je viens de vous parler, comprend un dialogue préliminaire qui est suivi de 16 autres, qui précise la doctrine spirituelle de Bossuet. Puis l'autre, le traité de l'abandon à la Providence, cette petite brochure, qui est extraordinaire, a été livrée au public, on peut dire, pour il y a à peine 140 ans, en 1861, par le père Ramière. Et vous pouvez vous trouver ça, c'est chez CMD, je reviens toujours à ce distributeur CMM, comme dans Montréal, D, qui vend ça une douzaine de dollars, je crois, « L'abandon à la divine providence » par le père de Caussade, avec des extraits de l'ouvrage du père Ramière, puis une préface du cardinal Sunès. Ce compositeur, Mondonville, est né dans le Calvados, et puis il a été vraiment un des grands compositeurs français de son époque, Jean-Joseph Cassanet de Mondonville, qui est mort en 1772. Mais il voit la même époque que Jean-Pierre de Caussade. Mais il était né à Narbonne et il a écrit même un opéra, ce qui est assez exceptionnel. Et on vient d'entendre « Venez, adorons-le ». Il est le maître de la mer, car il l'a fait. Ses mains ont aussi créé la terre. Venez, adorons Dieu et prosternons-nous devant lui. Fléchissons le genou devant le Seigneur qui nous a fait, car il est le Seigneur notre Dieu. Nous sommes son peuple et les brebis de sa garde. J'allais dans un magasin hier, un jeune homme me disait qu'il était athée. Je lui ai dit, pensez-vous que ce sont vos parents qui vous ont fait? C'est lui, c'est Dieu. Je l'ai laissé après. Je voulais pas trop l'ennuyer. Alors, le traité de l'abandon à la divine providence, ou à la providence divine, comme on disait autrefois, qui a été livré au public en 1861, vous ai-je dit, a été probablement composé avec des lettres adressées à la mère de Rotembourg, dont je vous ai parlé, et peut-être aussi avec les fragments des entretiens faits à la communauté. L'abandon à la providence divine, envisagé comme le moyen le plus facile de sanctification. Ouvrage inédit, c'est comme ça que c'est écrit en 1861, c'est comme ça qu'il est intitulé. L'abandon à la providence divine, envisagé comme le moyen le plus facile de sanctification. Ouvrage inédit du révérend père Jean-Pierre Caussade, paru en 1861 chez Régis Ruffet à Paris. D'après la préface de l'éditeur, le père Ramier reproduit le manuscrit de Montmirail, dont le titre portait « Traité où l'on découvre la vraie science de la perfection, la vraie science de la perfection du salut ». Mais il y fait des suppressions et des soudures. Il partage l'ouvrage en deux livres. Hein? Puis le premier livre, c'est « De la vertu d'abandon ». Qu'est-ce que c'est ça, l'abandon? L'abandon à la divine providence, c'est s'abandonner, c'est se confier, c'est savoir qu'on est aimé. Alors, de la vertu d'abandon, il y groupait tous les textes pouvant convenir à tous les chrétiens. Puis, la deuxième partie, c'est de l'état d'abandon. Quand on y est arrivé, là, il s'agit de l'état des âmes dont Dieu prend en main, dit-il, la conduite spéciale. Il s'agit des âmes qui sont entrées dans les voies de la contemplation. Alors, pour en avoir peut-être une idée un peu plus intéressante, peut-être que je pourrais vous dire ce qui est écrit au début de ce petit livre que je vous recommande. Hein? Le cardinal Sunès qui dit le petit livre d'extrait du père de Caussade, l'abandon à la providence divine, est un des joyaux de notre littérature religieuse. Hein? Connaissez le cardinal Sunès, archevêque de Malines, grand propagateur du mouvement du renouveau charismatique dans l'Église, intellectuel de très grande valeur. J'ai eu la chance de rencontrer là-bas, il m'avait donné un beau cadeau. Mais quel homme bon, gentil, aimable. Et il ajoute son message à ce livre, à ce petit livre, reste actuel pour tous les temps. Parce qu'il nous introduit au cœur de la spiritualité chrétienne. Je l'ai lu et relu tout au long de ma vie. Le cardinal qui parle, hein? Je l'ai lu et relu tout au long de ma vie. Il m'enseignait la sérénité et la joie chrétienne. Est-ce qu'on n'a pas tous besoin de ça, de la sérénité puis la joie chrétienne? Il en révèle le secret qui n'est autre que la foi en l'inaltérable amour de Dieu, qui nous enveloppe et veille sur chacun de nous, en toutes circonstances, comme si nous étions seuls au monde. Il enseigne que la sainteté consiste dans l'abandon confiant et total de soi à l'amour implacable de Dieu. Imaginez un amour implacable, pas un amour là qui se retourne contre nous au bout de quelques années, là, comme malheureusement dans nos unions aujourd'hui. Non. L'abandon confiant et total de soi à l'amour implacable de Dieu. Dans la fidélité au moment présent, heure par heure. Parce que le père de Caussade insiste beaucoup là-dessus. On ne peut sanctifier que le moment présent. Vous ne pouvez pas sanctifier ce qui s'est passé tôt ce matin. Il est trop tard. Vous pouvez sanctifier ce qui se passe actuellement entre 10h20 et 10h25. Et c'est tout. C'est tout. Dieu ne vous donne rien de plus et rien de moins, mais c'est très riche cet instant. Dans son introduction à ce petit livre, le père de Meus, un jésuite admirable belge, j'étais allé suivre une retraite de lui à Banneux en 1988 avec Jean-Loup Ders et Madame Ders. Il dit « Ces pages constituent moins un traité de spiritualité qu'un ardent témoignage. » Tous ceux qui ont exhumé les écrits du père de Caussade d'un trop long silence ont été frappés. Frappés par quoi? Par le souffle qui traverse ces pages. Ce livre relève moins du savoir que de l'expérience vivante. L'expérience dont il est question ici est celle de l'action divine. Parce que le père de Caussade revient toujours sur cette action. Dieu agit en chacun de nous. Chacun de nous, pas certaines personnes, non, tous. À nous de le laisser agir, de s'abandonner à son action. Et le père de Meus ajoute rarement, sans doute, nous sera donné une description plus perspicace, plus fouillée, plus profonde de ce secret caché de l'action divine. Un des thèmes majeurs de l'abandon à la providence divine est celui du moment présent. Et vous, il insiste encore, moment présent. L'action de Dieu colle à la réalité la plus humble, la plus quotidienne, la plus actuelle. Nous sommes donc loin d'une vision élitiste de la spiritualité. Le plus sublime rejoint ici le plus ordinaire. C'est au cœur du réel, c'est au cœur du réel, à chaque instant du temps qui passe, qu'est offerte la grâce de la sainteté. La révélation du moment présent est une source de sainteté jaillissante. Pour reprendre les termes mêmes du père de Caussade, il écrit le père de Caussade, « Les devoirs de chaque moment sont les ombres sous lesquelles se cache l'action divine. » Combien la sainteté deviendrait plus facile si on l'envisageait à ce point de vue? L'abandon de soi-même à l'action divine constitue pour le père de Caussade le vrai chemin de la sainteté. Chemin non de quiétisme, là, qui est une doctrine condamnée, mais de dépouillement. C'est un chemin de dépouillement. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un chemin de purification profonde, car Dieu se donne, comme on dirait, incognito. Dieu donne d'autant plus généreusement à l'âme qui s'abandonne à lui qu'il semble la dépouiller davantage, dit le père de Caussade. Une spiritualité qui est inspirée par l'Esprit-Saint a toujours une valeur universelle. Elle transcende les circonstances historiques. Le contexte particulier de l'époque où elle vit le jour, elle transcende ça. C'est une doctrine qui date de 250 ans, mais qui est actuelle en 1997, en 1998. Donnez ça en cadeau de Noël, c'est un petit cadeau de 10$, ça vaut la peine. L'abandon à la divine providence par le père de Caussade, distribué par CMD. Contre les tentations de l'activisme et de l'efficacité, nous pourrions apprendre que l'important n'est pas de faire des œuvres pour Dieu, mais de faire l'œuvre de Dieu. Contre les maladies de l'angoisse, que d'âmes angoissées dans l'Église catholique, comme dans toutes les religions, je pense. Contre les maladies de l'angoisse, les culpabilités du passé, les inquiétudes de l'avenir, nous pourrions accueillir de façon nouvelle la grâce du moment présent. Contre toutes les médisances et calomnies qu'on nous adresse ou qu'on entend dire de nous, accueillir de façon nouvelle la grâce du moment présent, parce que Dieu est là qui nous aime. Et ce petit livre est à lire et à relire, hein, à connaître et à faire connaître. Le chemin de l'abandon pour le père de Cossade s'identifie avec celui de la sainteté. La sainteté. Ce chemin de dépouillement puis de simplicité revient à cette belle parole de la Sainte Vierge dont c'est la fête aujourd'hui. Cette parole si simple, un mot qu'elle a prononcé, en latin c'est « fiat », en français c'est tout simplement « oui » ou « qu'il me soit fait »,« que ce soit fait », »,« oui ». Quand on dit oui à Dieu, le bonheur entre en nous parce que c'est l'Esprit Saint qui nous envahit. Il a laissé un petit livre, l'Abandon à la Divine Providence, ainsi que un traité sur la raison du cœur et les instructions spirituelles. Le traité sur la raison du cœur et les instructions spirituelles a été établi et présenté par le Père Michel Olph Gaillard. Olph, O-L-P-H-E, trait d'union Gaillard, jésuite, paru chez Desclée de Brouwer en 1981. C'est lui, le père Olph Gaillard, qui a publié aussi un article intéressant, un peu sec, dans le dictionnaire de spiritualité. C'est des pages et des pages. Mais avant de continuer là-dessus, je voudrais vous extraire le tout début de ce livre, L'abandon à la divine providence, et vous lire, quoi, une couple de pages. Livre 1, nature et excellence de la vertu d'abandon. Au chapitre 1. La fidélité à l'ordre de Dieu a fait toute la sainteté des justes de l'ancienne loi et de Marie elle-même. Marie immaculée dont c'est la fête aujourd'hui. Voici le texte. Dieu parle encore aujourd'hui comme il parlait à nos pères. La fidélité à l'ordre de Dieu faisait toute la spiritualité, mais elle n'était pas réduite en art, qui renferma tant de préceptes, d'instructions et de maximes. Nos besoins présents l'exigent sans doute. Il n'en était pas ainsi dans les premiers âges, là, où l'on n'avait plus de droiture et de simplicité, dit-il. Il ajoute, on y voyait que chaque moment amène un devoir qu'il faut remplir avec fidélité. Chaque moment amène un devoir qu'il faut remplir avec fidélité. C'en était assez pour les spirituels d'alors. Toute leur attention s'y concentrait successivement. Leur esprit, mu sans cesse par l'impulsion divine, se trouvait insensiblement tourné vers le nouvel objet qui s'offrait à eux, selon Dieu, à chaque heure du jour. Et tels étaient les ressorts cachés de la conduite de Marie, la plus simple et la plus abandonnée à Dieu des créatures. Écoutez bien la réponse qu'elle fit à l'ange quand elle se contenta de lui dire « Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon votre parole. » En d'autres termes, quand elle répond « Oui ». Bien, la réponse qu'elle fit à l'ange, dit-il, rendait toute la théologie mystique de ses ancêtres. Tout s'y réduisait, comme à présent, au plus pur, au plus simple abandon de l'âme à la volonté de Dieu, sous quelque forme qu'elle se présente. Cette belle et haute disposition, qui faisait tout le fond de l'âme de Marie, éclate admirablement dans cette parole toute simple, « Fiat mihi, qu'il me soit fait ». Remarquez qu'elle s'accorde parfaitement avec celle de notre Seigneur, celle que notre Seigneur veut que nous ayons sans cesse à la bouche et au cœur, hein. « Fiat voluntas tua, Que votre volonté soit faite, c'est dans notre Père, comme vous le savez. C'était cette divine volonté qui la réglait en tout. La Sainte Vierge. Que ses occupations soient communes ou relevées, c'est-à-dire qu'elles soient ordinaires ou plus spéciales, ce n'était à ses yeux que des ombres, tantôt obscures, tantôt brillantes, dans lesquelles elle trouvait également de quoi glorifier Dieu et de quoi reconnaître les opérations du Tout-Aimant. Son esprit, ravi de joie, regardait tout ce qu'elle avait à faire ou à souffrir, à chaque moment, comme un don de celui qui remplit de bien les cœurs qui se nourrissent de lui seul. Les cœurs qui se nourrissent de Dieu, de lui seul. C'est là qu'est le bonheur. Faut bien dire que le père Jean-Pierre de Caussade, il n'innove pas en écrivant des choses comme ça. L'histoire de la doctrine de l'abandon, ça commence bien avant lui et son mérite, c'est d'avoir vécu, lui, cette doctrine, d'avoir compris qu'elle offre un centre à toute une synthèse spirituelle qui est vraiment, là, jusqu'au fond, cohérente et souple aussi. Il a réussi à en dégager les applications les plus importantes, les applications essentielles, quoi. Et par là, le père de Caussade se montre disciple authentique de saint Ignace et de saint François de Sales. Il y a ses rapports avec les visitandines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les sœurs de la Visitation sont des cloîtrées. Les visitandines, filles de saint François de Sales et de sainte Jeanne de Chantal. Mais ses rapports avec la Visitation l'ont mis en contact intime avec saint François de Sales. Il possède la doctrine de saint François de Sales à fond. Il s'y réfère sans cesse dans sa correspondance. Et son étude du semi-quiétisme a contribué à lui donner vraiment une connaissance très précise des écrits de saint François de Sales. L'abandon à la Providence joue un rôle primordial dans la spiritualité des visitandines. Et les auteurs que recommande le père de Caussade sont tous des partisans de l'abandon. Il renvoie souvent à sainte Thérèse d'Avila et au combat spirituel. Il connaît aussi saint Jean de la Croix, sainte Catherine de Sienne, dont je vous parlerai bientôt, sainte Catherine de Gênes. J'ai parlé de tous ces gens déjà. Il est indulgent pour le chrétien intérieur de M. Bernière-Louvigné. Bossuet le met à l'abri des abus des nouveaux mystiques. Il est bien dirigé par Bossuet, finalement, par la pensée de Bossuet. Et l'interprétation qu'il donne de l'instruction sur les états de raison, ça lui accorde le droit de sympathiser avec Fénelon, qui était plus ou moins discuté, qui ne craint pas de citer, lui, dans sa correspondance. Et la doctrine du père de Caussade n'est donc pas foncièrement nouvelle, mais elle a pris chez lui une forme personnelle. Il y a des visions personnelles, on pourrait dire, chez lui. Et la voie de l'abandon convient à toutes les âmes. Ça, c'est un livre qui convient à tout le monde. Pourvu qu'on le lise en sachant que c'est écrit un peu dans le style ancien. Il faudrait une traduction nouvelle, écrite par quelqu'un qui a le langage moderne. J'aimerais ça que ce soit fait, moi. Le père de Caussade se fait le missionnaire, au fond, de la voie de l'abandon. Parce qu'il reconnaît dans cette voie la voie même de la sainteté à laquelle Dieu nous appelle tous. Tous! Surtout ceux qui sont parmi nous les plus simples et aussi les plus ignorants. Souvent, on se dit, ça va être trop difficile pour moi. Je suis pas le cardinal Ratzinger, je suis pas le père Congar, je suis pas ces grands savants extraordinaires, je ne connais presque rien. Lisons ça, moi je le lis avec délice parce que ça me convient très bien. C'est une méthode universelle, la voie d'abandon. Puis elle doit s'adapter aux besoins puis aux capacités des individus. Elle est vraiment, ce que j'aime beaucoup de cette voie, c'est qu'elle est centrée sur Dieu. Elle s'appuie sur le dogme de la providence, en fait. Qu'est-ce que c'est la providence? C'est le soin que Dieu apporte à chacun d'entre nous pour nous rendre heureux, pour nous montrer son amour, pour nous chérir à chaque instant, pour nous aider, pour nous soutenir. Le traité de l'abandon contient des pages admirables sur les personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, sur le rôle qu'on leur attribue respectivement dans l'œuvre du salut, puis le progrès de l'Église. Et il dit que la perfection ne consiste donc que dans l'ordre de Dieu, c'est-à-dire dans ce que Dieu veut de nous. Il le veut par amour, Dieu. Cette perfection s'exprime uniquement par la simple adhérence à ce que Dieu veut de nous, les volontés divines, comme il dit. Puis la conformité, être conforme au bon plaisir de Dieu. Oui, Dieu a de bons plaisirs, c'est-à-dire qu'il a de bonnes intentions. Dieu est bon et humble et simple. Dieu est doux. Oui, et il veut notre bonheur. Il suffit d'obéir à ses commandements. Les 10 commandements de Dieu ne sont pas des horreurs. Ce sont des doux commandements de bonheur. Des doux ordres de bonheur. Je dirais des doux conseils absolus de bonheur. Où Dieu, comme un père avec un cœur de mère, nous dit « Si tu ne m'adores pas, si tu ne me vénères pas, si tu ne m'aimes pas en somme, si tu ne reconnais pas que c'est moi qui t'ai fait par amour, tu vas être malheureux parce que tu ne connaîtras pas mon amour. Tu ne me reconnaîtras pas, tu seras seul dans un désert épouvantable où Dieu que je suis n'est pas. Et tu ne sauras pas d'où tu viens ni où tu vas. Alors adore-moi, aime-moi. C'est pas compliqué, hein? Ce sont des beaux conseils de bonheur. La conséquence pratique, c'est qu'on ne peut présenter d'une manière identique à toutes les âmes la doctrine de l'abandon, parce que Dieu se réserve d'en conduire certaines, on dirait, par des voies où l'abandon s'impose avec un caractère exclusif, qui serait dangereux pour d'autres. Le père de Caussade l'a bien dit. Aussi, le père Ramière, qui a édité ça il y a 140 ans, a pas faussé la doctrine du père de Caussade en divisant le traité en deux parties, la vertu puis l'état, comme je vous ai dit au début. La spiritualité de l'action, bien qu'elle convienne à toutes les âmes, ses lignes essentielles sont celles de saint Ignace. Celles que saint Ignace de Loyola, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, inculque à ses fils, en vue de leur action là, comme apôtres. Qu'est-ce qu'il faut? La foi en l'omniprésence de Dieu. Toujours se dire que Dieu est présent, partout. Il est en nous, nous sommes en lui et nous sommes inséparables. Puis il y a la doctrine de l'indifférence aussi. L'indifférence. C'est une disponibilité intérieure qui est au fond identique avec la pureté de cœur. C'est une espèce d'optimisme que reflète l'indifférence. Mais ça va pas sans une assaise rigoureuse, l'indifférence. Évidemment que les sens puis la raison protestent contre les exigences de la foi. La foi est exigeante. Mais cependant, le père de Caussade s'attache davantage au côté positif, au don de Dieu, puis à son action en chaque moment. Il y a aussi, pour le père de Caussade, il y a la fécondité de l'union divine. Puis il rappelle ça souvent, que quand on s'unit à Dieu, c'est une fécondité fantastique. On conçoit la valeur d'action d'une doctrine qui fait de l'âme l'instrument de la divine providence. Quand notre âme est entre les mains de Dieu, là, ces douces mains pleines d'amour, eh bien, la confiance en Dieu, ça devient le ressort de l'abandon. La confiance en Dieu, ça remplit l'âme qui est vidée de la confiance qu'elle pouvait avoir en elle-même. Se confier en soi-même, puis se dépendre de soi-même, puis de ses propres petits efforts, souvent ridicules, on perd son temps. Il faut se mettre dans le grand mouvement de l'Esprit-Saint. Alors l'état d'abandon, bien, les principes généraux de la voie d'abandon s'appliquent à toutes les âmes. Ça permet de discerner la voie qui nous est propre à chacun d'entre nous, puis c'est dans les petites choses, comme disait Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, puis le père de Caussade dit la même chose. Dans les petites choses. Le père de Caussade distingue lui-même un temps auquel l'âme vit en Dieu, puis un temps auquel Dieu vit en l'âme. Il y a aussi l'état d'amour pur. C'est l'état d'abandon, qui est une synthèse. Il paraît simple, parce que l'acte dans lequel il s'exprime est simple psychologiquement. Il suppose, en fait, l'exercice de trois vertus théologales. C'est quoi? Mais vous les connaissez. Le pur amour, la pure espérance, la pure foi. Et quand on a une pure espérance dans l'amour de Dieu, la confiance, une pure foi qui nous fait vraiment être sûrs, puis cette pure charité qui nous prolonge, qui nous permet d'aller vers les autres et de faire tout ce qu'on peut pour aider les autres. Cela peut s'appeler avec une égale justice un pur amour, une pure espérance, une pure foi. Ici, le plus souvent, on désigne par la pure foi l'état dont nous parlons, dit-il. Ce n'est pas pour exclure les autres vertus théologales, c'est plutôt pour faire entendre que dans cet état, ces vertus s'exercent dans l'obscurité. Oui, ça s'exerce dans l'obscurité. C'est tout doux et très beau que la doctrine de l'abandon à la divine providence. C'était superbe, les paroles de ce chant joyeux et enthousiaste. Ce sont les mêmes paroles qu'au début, il y a une demi-heure. Il est le maître de la mer, car il l'a faite. Ses mains ont aussi créé la terre. Venez, adorons Dieu et prosternons-nous devant lui. Nous sommes son peuple. Magnifique, très beau chant. Eh bien, revenons à Jean-Pierre de Caussade. Il était question d'amour pur, mais il est aussi question de l'état de foi pure. C'est au sens fort l'état propre des âmes qui s'abandonnent, les âmes abandonnées dans le sens des âmes qui s'abandonnent dans les bras de Dieu, disons, contre son cœur de mère. C'est Sainte Jeanne Françoise de Chantal qui en reste, au fond, l'exemple le plus remarquable de ça. Nous devons la description, d'ailleurs, de la psychologie surnaturelle qu'elle avait à Saint François de Sales qui l'a décrite. Parce que Saint François de Sales, c'est ici, dans cette branche-là, là, dans ce passage-là, le maître principal du Père Jean-Pierre de Caussade dont il est question aujourd'hui. Et on retrouve chez le Père de Caussade l'optimisme et la sérénité, ce dont nous avons tant besoin à Noël, hein, l'optimisme et la sérénité de l'évêque de Genève, de François de Sales. Que de gens sont tristes à l'approche de l'anniversaire de la naissance de notre Seigneur. Mais s'il fallait s'attrister de la mort de quelqu'un, bon, moi j'ai perdu mon fils il y a 4 ans, je peux pas me mettre à pleurer à Noël parce qu'il n'est plus là. C'est la fête de Jésus. C'est l'anniversaire. C'est l'incarnation de Dieu qui vient par amour parmi nous pour nous libérer et nous enseigner les plus belles choses avec son cœur qui est identique au cœur du Père, et c'est le Père qui se révèle en lui. Et cet amour existe, c'est une personne, c'est l'Esprit-Saint. Comment ne pas célébrer Noël? Mais sans la meilleure façon peut-être de célébrer Noël, c'est de passer plusieurs heures en solitude, à prier, à pleurer de joie. Dans la pensée du Père de Caussade, il dit que l'amour propre, c'est le grand obstacle à l'amour de Dieu. La confiance en soi, c'est le plus redoutable adversaire de la confiance en Dieu. Il dit même que cette espèce d'amour propre qui fait qu'on gratte nos petits bobos, c'est une hydre à plusieurs têtes. Vous savez, c'est un monstre qui a plusieurs têtes. L'amour propre ne se laisse jamais complètement anéantir ici-bas, c'est sûr, on va mourir avec ça. Détruit dans ses formes les plus grossières grâce à l'Eucharistie, ou si possible quotidienne, grâce à l'oraison, grâce au sacrement, grâce à la vie de l'Église, grâce à l'action de l'Esprit-Saint en nous, grâce à notre union à Dieu, il en subsiste toujours chez les plus grands saints. Sur les espèces subtiles et tenaces, c'est le directeur spirituel qui peut démasquer ça, et c'est en effet au sensible de la piété, hein, que l'amour-propre s'attache. une complaisance d'autant plus ruineuse, là, qu'elle peut paraître plus légitime. Hein? Les gens s'attachent à des émotions sensibles de piété. Il faut prier même quand on ressent rien. Et le père de Caussade s'applique donc à souligner, non seulement en général, mais pour les cas particuliers de ses dirigés, la malice de ces espèces de réflexions inutiles dont Dieu travaille à les purifier par des épreuves intérieures. Il faut se purifier, puis la voie d'abandon n'exclut pourtant ni les prières vocales, oh, ni l'oraison méthodique. La voie de l'abandon est une voie pleine de richesses, pleine de richesses. C'est plein dans ce petit livre de choses admirables. L'ordre de Dieu, dit le père de Caussade, est toute la pratique de l'âme simple. Elle le respecte, l'ordre de Dieu, dans les actions irrégulières que l'orgueilleux fait pour la troubler. Cet orgueil méprise une âme aux yeux de laquelle il n'est rien. Car elle ne voit que Dieu en lui et en toutes ses actions. Si l'action divine se cache ici-bas sous les dehors de la faiblesse, c'est pour augmenter le mérite des âmes qui lui sont fidèles. Mais son triomphe n'en est pas moins assuré. L'histoire du monde n'est que l'histoire de la lutte que les puissances du monde et de l'enfer livrent depuis le commencement aux âmes humblement dévouées à l'action divine. Et dans cette lutte, tous les avantages semblent être du côté de l'orgueil, et pourtant, c'est l'humilité qui est toujours victorieuse. La figure du monde nous est présentée sous l'image d'une statue d'or, d'airain, de fer, de terre. Ce mystère d'iniquité, montré en songe à Nabucodonosor, n'est que l'assemblage confus de toutes les actions intérieures et extérieures des enfants de ténèbres. Ceux-ci sont encore figurés par la bête sortie de l'abîme, dès le commencement des siècles, pour faire la guerre à l'homme intérieur et spirituel. Tout ce qui se fait encore de nos jours n'est que la suite de cette guerre, et on voit cette bête, elle est sortie partout. Elle est dans notre télévision, dans nos journaux, dans nos revues, elle est partout, cette bête. Les monstres se succèdent les uns aux autres, mais l'abîme les dévore et les revomit. Il renvoie incessamment de nouvelles vapeurs, mais le combat commencé au ciel, entre Lucifer et Saint-Michel, dure encore. Et le cœur de Lucifer, superbe et envieux, est devenu un abîme inépuisable de toutes sortes de maux. L'ordre de Dieu est toujours demeuré victorieux. Ceux qui se sont rangés de son côté ont triomphé avec lui, et ils sont heureux pour une éternité. Oui, pour une éternité. Il n'y a que quand on se donne à Dieu que l'on est heureux. L'âme, longtemps exercée dans la science et dans la pratique de la perfection, sous l'empire du raisonnement et des méthodes dont elle cédait pour seconder la grâce, se forme insensiblement une habitude d'agir en tout par l'instinct de Dieu. Il semble alors qu'elle n'a rien de mieux à faire que ce qui se présente d'abord, sans cette suite de raisonnement dont elle avait besoin autrefois. Et c'est le caractère de l'abandon, de mener toujours une vie mystérieuse et de recevoir de Dieu les dons extraordinaires et miraculeux par l'usage des choses communes, ordinaires, les choses naturelles, les choses fortuites, les choses qui viennent du hasard peut-être, et où il ne paraît rien que le cours ordinaire des humeurs du monde et des éléments. Alors on s'abandonne à ces choses-là avec Dieu, sachant que Dieu est là au cœur des événements présents, du moment présent, où Dieu nous sanctifie dans son amour sans cesse renouvelé. Dieu ne nous abandonne jamais. Il y a bien d'autres éditions de l'abandon à la divine providence que je vous recommande moins, qui sont parues en 1944 à Montréal, chez Fides et aux éditions de l'Arbre. C'est mieux de prendre l'édition toute récente, parue chez CMD, CM comme dans Montréal, n'est-ce pas? Et D. Procurez-vous ça, c'est de beaucoup préférable.